Et c'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Haro sur l'assurance chômage.
Oui, hier soir, Gabriel Attal a dit souhaiter une nouvelle réforme globale qui réduirait la durée d'indemnisation des allocataires. C'est là l'une des pistes avancées par le gouvernement pour réduire les dépenses sociales et ainsi combler le déficit qui s'est envolé l'an dernier. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, le sociologue Mathieu Grégoire. Issu d'un minutieux travail d'écriture pour parvenir à un texte consensuel, la résolution condamnant la répression sanglante et meurtrière des Algériens le 17 octobre 61 a finalement été voté ce matin à l'Assemblée dans un hémicycle toutefois clairsemé. Emmanuel Macron persiste et signe en déplacement au Brésil. Le chef de l'État a de nouveau fustigé le projet de traité de libre-échange Mercosur, cet accord commercial négocié entre l'UE et le bloc sud-américain. Et ce, on le verra, alors que nombre de ses partenaires européens n'y sont pas opposés. Enfin, 1 milliard de repas jetés inutilement chaque jour dans le monde. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'ONU qui dénonce la tragédie mondiale du gaspillage alimentaire. Après avoir déjà acté 10 milliards de coupes budgétaires pour cette année et encore 20 milliards de marges supplémentaires l'an prochain, le gouvernement cherche toujours plus d'économies pour compenser l'envolée du déficit. Et c'est ainsi que sous la pression des oppositions, qui lui reprochent une gestion calamiteuse des finances publiques, mais aussi des agences de notation, lesquelles s'apprêtent à actualiser la note de crédit de la France, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a convoqué cet après-midi tous les chefs des groupes parlementaires pour une grande séance de brainstorming à Bercy afin d'identifier les leviers qui permettraient de réduire sensiblement les dépenses. Alors parmi les premières pistes évoquées, ou plutôt réaffirmées dès hier soir par le Premier ministre, on trouve une énième réforme de l'assurance chômage, quand bien même d'ailleurs la nouvelle convention négociée à l'automne dernier par les partenaires sociaux n'a toujours pas été validée par le gouvernement. Quoi qu'il en soit, Gabriel Attal propose donc de durcir davantage encore les règles d'indemnisation, ce qui, le cas échéant, Wafia Kenich raillerait d'un trait de plume le décret qu'il y a à peine plus d'un an prévoyait d'adapter les droits des chômeurs fonction de la conjoncture.
En effet, Thomas, une nouvelle convention d'assurance chômage négociée par les partenaires sociaux devait être validée la semaine prochaine, juste après les dernières discussions concernant l'indemnisation des seniors. Mais donc tout le monde doit revenir autour de la table et une fois encore discuter d'une réforme. Et il y a un peu de lassitude et beaucoup d'inquiétude du côté des syndicats. Lassitude parce que c'est la troisième fois depuis 2017 qu'Emmanuel Macron demande aux gouvernements successifs de se pencher sur une réforme de l'assurance chômage. De l'inquiétude aussi pour les partenaires sociaux qui soulignent certaines incohérences. Par exemple, l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, avait assuré à l'automne dernier « Oui, nous réduisons la durée d'indemnisation, mais nous sommes prêts à revenir sur cette mesure si la conjoncture économique est moins bonne ». 6 mois plus tard, avec un chômage qui stagne et des prévisions de croissance revues à la baisse, eh bien le gouvernement propose à nouveau de réduire le temps d'indemnisation des chômeurs. Une mesure présentée comme un biais pour pousser les demandeurs d'emploi à reprendre le travail. Sauf que sur les 6 millions de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, 2,6 millions sont indemnisés pour un montant de 1 000 euros par mois. Selon une étude de la DARES, service statistique du ministère du Travail, et comme plusieurs travaux d'économistes le démontrent, le lien n'est pas établi entre la réduction du temps d'indemnisation et le retour à l'emploi. En outre, les syndicats alertent une fois encore sur ce que la CGT, notamment, redoute depuis longtemps, la reprise en main de l'UNEDIC, qui gère l'argent de l'assurance chômage et qui est actuellement entre les mains des partenaires sociaux, une tentative de reprise en main donc par l'État.
Voilà, et pour continuer d'évoquer donc cette possible future troisième réforme de l'assurance chômage, invité à présent de la rédaction Mathieu Grégoire, professeur de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Une première réaction peut-être à ce qui vient d'être dit sur cette réinvention permanente donc par le gouvernement de l'argumentaire servant à justifier le durcissement des règles d'indemnisation. On avait cru comprendre que cela ne serait possible qu'en cas de conjoncture favorable. Visiblement, l'idée donc a fait long feu. Est-ce que cette relative, disons, inconstance dans les raisons mobilisées pour justifier ces réformes à répétition cache, selon vous, des motifs peut-être moins avouables?
C'est certain que là, les justifications ont beaucoup varié. Alors d'abord, on parle souvent, le gouvernement parle de 3 réformes. Moi, j'en compte quasiment 7 parce que il y a eu une réforme, en gros, une séquence de réformes quasiment tous les ans, sauf en 2020 où il y a eu le Covid et où le Conseil d'État a retoqué une des réformes de l'assurance chômage. Donc, on a un sentiment d'une forme d'obsession tous les ans, systématiquement tous les ans depuis 2017, on a l'annonce d'une nouvelle réforme. Alors effectivement. Les justifications de ces réformes varient beaucoup, les objets varient beaucoup. On a expliqué d'abord qu'il fallait réduire les droits des salariés à l'emploi discontinu, que c'était ceux qui étaient en permanence dans l'assurance chômage qui devait être visé, dont le montant des indemnités devait être visé. Mais Madame Borne a expliqué à l'époque, quand elle était ministre du Travail, que c'était pas si grave puisque la durée allait augmenter. Un an plus tard, donc en 2022, on a décidé de réduire la durée d'absolument tout le monde. La justification, c'était effectivement qu'il fallait réduire la durée quand la conjoncture était bonne. Et aujourd'hui, 2024, on entend qu'il faut réduire la durée parce que la conjoncture est mauvaise cette fois-ci. Donc quand la conjoncture est mauvaise, il faut réduire. Quand la conjoncture est bonne, il faut réduire.
Cette réforme, elle participerait d'un effort d'économie demandé à toutes les tranches de la société. Et le système d'assurance chômage est pourtant censé être autonome. Il est financé par des cotisations, il est géré par des partenaires sociaux. En ce sens, est-ce que cette nouvelle réforme participe aussi peut-être d'un mouvement de resserrement du contrôle du gouvernement sur les systèmes de protection sociale ?
Oui, en tout cas sur l'assurance chômage, c'est une obsession et c'est une obsession depuis le début. C'est-à-dire que la première réforme, ça a été effectivement dès 2017 de substituer à la cotisation salariale qui justifie d'une certaine manière le fait qu'on est dans une assurance sociale de substituer un impôt, la CSG, que paye tout le monde et donc qui sape en quelque sorte la légitimité de la partie salariée à négocier. En 2018, la loi Avenir Professionnel a mis sous tutelle la gouvernance de l'assurance chômage en faisant ce que fait aujourd'hui Gabriel Attal, c'est-à-dire un système dans lequel le gouvernement donne les objectifs, donne une enveloppe, donc c'est à la fois quantitatif, avec des objectifs financiers et qualitatifs, et charge aux partenaires sociaux d'appliquer cette feuille de route, ce qui est souvent impossible, et ce qui, là, risque d'être, cette fois-ci, encore impossible. C'est-à-dire que quand on demande, même à des syndicats très réformistes comme la CFDT, de savoir quelle solution ils préfèrent pour couper les ressources des demandeurs d'emploi, c'est quand même très compliqué pour un syndicat d'assumer ce genre de mission.
Alors, bien sûr, Gabriel Attal, lui, affirme ne pas vouloir s'en prendre aux chômeurs, hein, mais à un système qui favoriserait, donc, selon lui, le maintien dans l'inactivité plutôt que la reprise d'un emploi. Est-ce que ce genre d'affirmation est fondée? En clair, est-ce qu'une nouvelle réforme de l'assurance chômage pourrait aider le gouvernement à atteindre son objectif de plein emploi?
Alors, les effets sur le marché du travail de ces différentes réformes est quand même très douteux. La première remarque, c'est qu'il y a 80% de la baisse du taux de chômage depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, 80% qui a eu lieu avant la première réforme d'assurance chômage. Donc depuis la première réforme d'assurance chômage, on a 20% en gros de la baisse constatée. On est passé en gros de 7,9 avant le Covid à 7,5 aujourd'hui. Alors les économistes, effectivement, comme l'a dit votre reportage, ont des débats qui soit sont un petit peu, on va dire, théoriques et politiques, avec des autorités, des prix Nobel qui se renvoient la balle d'un côté, mais au fond, ils n'analysent pas, ils n'ont pas une connaissance précise du dispositif. Et puis, on a quelques études précises, et ces études précises, elles convergent toutes vers la même idée d'un résultat extrêmement faible, d'effet très très faible, moyennant des moyens extrêmement forts. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion énorme entre les moyens employés et les résultats obtenus. On réduit de 6 mois les indemnités chômage et on constate que ça accélère de quelques semaines la reprise d'emploi. Et ça pose une question peut-être plus profonde qui est celle d'une sorte de politique du chiffre qui est derrière tout ça. C'est-à-dire qu'au fond, faire qu'un chômeur reprenne un emploi 15 jours plus tôt ou un mois plus tôt, en quoi ça change fondamentalement le fonctionnement du marché du travail? En quoi ça améliore l'appariement de l'offre et de la demande sur le marché du travail? Pas grand-chose, le nombre d'emplois elle-même, le nombre de salariés qui trouvent un emploi elle-même. Au mieux, ça contente un patron qui a un mois de plus d'emploi. Au pire, le salarié se retrouve dans un emploi qui ne correspond pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'accélérer, ça fait baisser le chiffre du chômage. Et ça, c'est peut-être un des objectifs en termes de politique du chiffre.
Et on terminera par ces mots. Merci Mathieu Grégoire, professeur de sociologie, je le rappelle, à l'Université Paris-Nanterre d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïse Guérin pour la préparation.
Plus d'une cinquantaine d'établissements scolaires à Paris, essentiellement des collèges, ont été visés hier par des menaces d'attentats transmises via les espaces numériques de travail.
De son côté, le parquet de Paris a ouvert deux nouvelles enquêtes. Et puis on l'a appris ce matin, un jeune homme de 19 ans a été interpellé à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs de ces messages ainsi que de l'envoi d'une vidéo de décapitation, le suspect aurait reconnu les faits. Le texte ne bouleversera pas la doctrine officielle qui, depuis quelques années déjà, est enfin sortie du déni qui aura longtemps marqué la posture de l'État. Reste que dans un contexte où les questions mémorielles pèsent toujours lourd dans les relations entre la France et l'Algérie, le projet de résolution présenté ce matin à l'Assemblée avait dû faire l'objet de très nombreuses écritures et réécritures avant d'être finalement adopté. Il réclame au gouvernement non seulement la condamnation de la répression meurtrière des Algériens commise le 17 octobre 61 sous l'autorité du préfet de police de l'époque, Maurice Papon, mais aussi l'inscription à l'agenda des cérémonies nationales d'une journée de commémoration. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors précisons tout de suite qu'il ne s'agit là que d'une résolution, c'est-à-dire d'un simple avis qui n'a pas de force législative, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs de réveiller sur les bancs de l'hémicycle, même à moitié vide, les fantômes autour de la guerre d'Algérie. En l'occurrence, le texte porté par une députée écologiste a reçu le soutien de la gauche, du parti présidentiel et du Modem. En revanche, les Républicains se sont abstenus et le Rassemblement National a voté contre.
Oui, c'est l'aboutissement, vous l'avez dit, d'un travail qui aura duré un an, à la virgule près, avec l'Élysée. L'Élysée, rappelons-le, qui a d'ailleurs qualifié en 2021 le 17 octobre 1961 de crime inexcusable pour la République. Sabrina Sebaï, députée écologiste NUPES des Hauts-de-Seine, a porté le texte. C'est la notion de crime d'État qui, par-dessus tout, a fait débat jusqu'à disparaître.
Or moi, ce que je dis, c'est que vu qu'il n'y a pas eu de condamnation, pas d'inculpation, et que le préfet Maurice Papon n'a jamais été inquiété pour ce qui s'est passé le 17 octobre, c'est devenu de fait un crime d'État. Donc c'est principalement cela qui a été retiré pour le moment, mais pour ma part, je ne désespère pas. Je pense que cette résolution est une première étape pour aller justement sur la reconnaissance de ce crime d'État. Et ce qui a été retenu, c'est la notion de la reconnaissance et de la condamnation du massacre des Algériens de ce 17 octobre 1961, tout cela sous les ordres du préfet de police, Maurice Papon. Et c'était important que le préfet, que la notion de préfet soit inscrite, puisque là, on parle bien des services déconcentrés de l'État. Et puis, bien évidemment, ce qui apparaît dans cette résolution, c'est l'inscription en tant que commémoration officielle à l'agenda.
Des mois d'échanges pour en arriver là, mais l'essentiel est ailleurs. Selon Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne et de la colonisation.
Les politiques symboliques, au bout de plusieurs décennies, elles finissent par me lasser parce que inscrire une date à un agenda commémoratif, c'est important pour le récit national, c'est important pour le récit national de l'histoire de France. Mais quelle portée dans la société? Et à vrai dire, je trouve que s'investir aussi longuement et aussi fortement dans du déclaratif, pour moi, c'est très symbolique d'une forme d'impuissance politique qui consiste à ne pas mener de réelles politiques de lutte antiraciste, du type lutter contre les discriminations à l'emploi, au logement, ou encore les héritages dans les pratiques policières aujourd'hui. Pour moi, une politique mémorielle relative à ce passé, elle doit être effective.
Ces questions mémorielles, Thomas, travaillées par une commission mixte d'historiens qui seront plus que jamais au cœur d'une visite d'État en France à l'automne prochain du président algérien Abdelmadjid Tebboune.
Merci Mathieu Laurent.
Vous écoutez France Culture, il est 12h43 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après la photo carte postale du président Emmanuel Macron et de son homologue brésilien Lula dans le décor luxuriant de la forêt amazonienne censé immortaliser la nouvelle page des relations entre les deux pays, le président français a fini par mettre les pieds dans le plat hier en réitérant ses critiques à l'égard de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le bloc des pays sud-américains, le Mercosur, défendu sans relâche, en l'occurrence par le président brésilien. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
C'est un très mauvais accord, a martelé Emmanuel Macron, lequel propose rien de moins que d'en bâtir un nouveau. Reste toutefois à savoir ce qu'en penseraient ses 26 autres partenaires européens, Louise, puisque tous ne sont pas contre, loin de là.
Eh oui, grand fan et non des moindres de l'accord Mercosur, Olaf Scholz. Le chancelier allemand voit d'un très bon œil ce nouveau débouché de 270 millions de consommateurs. Alors que le modèle économique allemand est fragilisé par la fin du gaz russe bon marché et le protectionnisme chinois, l'accord Mercosur est une opportunité majeure pour exporter les voitures, les machines-outils et les produits pharmaceutiques allemands. L'autre pays européen qui est à fond pour l'accord, c'est l'Espagne, prête à signer, comme l'a dit Pedro Sanchez en visite au Brésil il y a 3 semaines. La guerre en Ukraine montre que l'Europe doit trouver de nouveaux alliés. Par ailleurs, l'Amérique du Sud regorge des métaux rares nécessaires à l'électrification du continent européen. L'urgence climatique, c'est pourtant l'angle d'attaque principal d'Emmanuel Macron. L'accord Mercosur ne prévoit ni clause miroir, ni mention de l'accord de Paris sur le climat. Et puis surtout, la France veut protéger ses éleveurs des importations brésiliennes ou argentines, estimées à 99 000 tonnes annuelles de viande bovine, par exemple. Concurrence qui refroidit également la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique ou l'Autriche. Alors cela ne fait pas encore une majorité contre l'accord Mercosur, qui est toujours sur la table. Mais si la France n'est pas seule à décider, difficile de faire sans elle, qui est un poids lourd du secteur, alors que la crise agricole favorise partout la contestation du libre-échange et que nous sommes à 10 semaines des élections européennes.
Merci Louise Baudet.
Israël entendra-t-il l'avertissement à ne pas lancer d'offensive terrestre majeure à Rafah ?
Compte tenu du mépris avec lequel le Premier ministre Benjamin Netanyahu a accueilli l'appel de l'ONU à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, la question reste posée. Il y a encore des dizaines de Palestiniens ont été tués dans d'intenses bombardements sur l'enclave assiégée et menacée de famine. Près d'une semaine après l'attentat dans une banlieue de Moscou dont le bilan s'est encore alourdi hier, atteignant les 140 morts, et bien qu'ayant admis pour la première fois lundi dernier que les assaillants présumés étaient des islamistes radicaux, Vladimir Poutine n'en démord pas. Le maître du Kremlin continue d'insister sur un lien présumé avec les services secrets ukrainiens. Et peu importe d'ailleurs si son plus fidèle allié, le président bélarusse Alexandre Loukachenko, a en partie mis à mal la version de Moscou cette semaine en assurant que les assaillants avaient initialement essayé de fuir vers son pays et non pas en Ukraine. Alors peut-être est-ce la raison pour laquelle le spectre des présumés inspirateurs de cette attaque s'est encore élargi. Toujours est-il que le patron des services de sécurité russe accuse désormais l'Occident d'avoir facilité l'attentat. Les précisions depuis Moscou de Sylvain Tronchet.
La scène dure à peine 2 secondes, mais elle est très significative. Mardi, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrouchev, ancien directeur du FSB, personnage clé du régime, sort d'une réunion quand il est interpellé par un journaliste. L'État islamique ou l'Ukraine, demande le reporter. Réponse de Patrouchev, l'Ukraine, bien sûr. Si Vladimir Poutine n'a pas formellement mis en cause le régime de Kiev, se contentant de l'évoquer à l'étage du dessous, les cadres du pouvoir ne se gênent pas. L'actuel patron du FSB, Alexandre Bortnikov, affirme que les terroristes étaient attendus en héros en Ukraine. Le président de la Douma, Vyacheslav Volodine, va plus loin en désignant l'Ukraine, Washington et Bruxelles. Officiellement, pourtant, l'enquête est toujours en cours et n'a pas livré ses conclusions. Mais les médias russes, depuis 2 jours, citent des experts de l'islam dont les conclusions tendent toutes à dire que cette attaque ne peut pas avoir été menée par l'État islamique, ou expliquant que les Occidentaux peuvent avoir organisé cet attentat pour contrarier les bonnes relations de la Russie avec le monde arabe, sans jamais apporter de preuves, mais elles viendront probablement quand l'enquête sera terminée.
Le gaspillage alimentaire est une tragédie mondiale.
D'après l'ONU, les ménages ont jeté l'équivalent d'un milliard de repas chaque jour dans le monde en 2022, soit de quoi nourrir tous ceux qui souffrent de la faim sur la planète, en l'occurrence 800 millions de personnes selon les estimations. Alors eux seuls, les ménages représentent 60% de ce gâchis, suivent ensuite les services de restauration, les supermarchés, les boucheries, autres épiceries en tout genre. Faut-il s'étonner de l'ampleur de ce phénomène ? Non, répond Memeline Rabot, directrice générale France de Too Good To Go, cette application qui permet à des millions d'usagers de récupérer les invendus des commerçants à petit prix. On l'écoute.
Malheureusement, non, je ne suis pas surprise par ce chiffre, puisque c'est la raison pour laquelle Too Good To Go s'est créé il y a 8 ans. C'est justement parce qu'on a pris conscience qu'on avait environ entre un tiers et 40% de la production alimentaire mondiale qui finissait à la poubelle. Alors, le phénomène, il est présent partout. C'est-à-dire qu'en fait, il est présent à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, aussi bien à l'étape de la production, aussi bien à l'étape de la transformation, de la distribution et de la consommation. Et la plus grosse partie du gaspillage alimentaire, elle se situe dans nos assiettes, dans nos frigos. Et effectivement, on achète trop. On est aussi dans une période où on sort peut-être d'une période de surconsommation, en tout cas on espère qu'on est en train d'en sortir. Pour le moment, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On a pris effectivement l'habitude de faire des grosses courses, de surstocker, d'avoir un frigo plein en permanence, alors qu'in fine, il faudrait revenir à des pratiques beaucoup plus vertueuses, de faire ses courses beaucoup plus régulièrement, de systématiquement, lorsqu'on a des restes, les consommer ou les réagrémenter pour recréer un repas, de congeler lorsqu'on a des restes. Et c'est vrai que je pense qu'on a perdu cette habitude et ce bon sens parce que les prix de la nourriture dernièrement étaient peu élevés. Et finalement, on voit qu'il y a un retour à ces pratiques-là avec l'inflation.
Voilà, Méline Rabaud, directrice générale de France de Too Good To Go. Elle répondait aux questions de Mercia Nézy. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi agité sur les deux tiers nord du territoire avec des averses plus marquées de la Bretagne vers le centre-val de Loire. Le ciel sera plus clément en revanche sur le quart sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 10 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Yann Coudrier et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.